chanter la très courageuse, qui ont émergé des torpeurs
de la fête
d'hier. Alors, juste un petit détail, parce qu'on dit que Pierre est dans les détails. J'ai été désolé à HEC, mais après mon séjour chez IBM pendant 2 ans, j'ai perdu ce titre et je ne suis plus que professeur au groupe HEC. C'est responsable de la mission mobilisation des compétences et travail collaboratif, ce qui peut avoir un lien avec ce qu'on va vous présenter maintenant. Si Bruno veut bien être honnête un petit peu, que je ne fasse pas plus. Alors, ce que nous allons vous dire, c'est que, d'une certaine façon, presque tous ceux que nous rencontrons dans ce domaine sont des codeurs informatiques. Et nous, on va essayer de développer un code politique, un code socio-économique. On va essayer de vous montrer pourquoi le logiciel libre ne représente pas un monde à part, mais comment il interfère avec l'économie classique de plus en plus perturbée. Et c'est un peu...
Comment le libre est instrumentalisé éventuellement par l'économie classique? Notre point de vue est plutôt comment le libre impacte l'économie classique au point de modifier fondamentalement, et particulièrement on a pris l'exemple de Microsoft, comment il peut remettre en cause la puissance d'une entreprise dominante comme Microsoft. Alors autour de quelques questions.
Alors, la plupart du temps, le logiciel libre a été développé, comme on ne va pas refaire l'histoire, vous connaissez mieux que nous, dans un champ non concurrentiel. Or, le gros problème, c'est le fil rouge de notre article, c'est finalement comment un géant qui a réussi parfaitement comme Microsoft, qui n'a pas meilleur que lui dans sa sphère, se heurte peut-être à un mur, et ce mur commence à être lézardé par tout le monde du libre, qui prouve qu'en travaillant autrement, on peut sortir des produits compétitifs, et pardon, pas concurrentiels. Donc, les caractéristiques de la nouvelle économie. En quoi le mode de développement qui sous-tend le logiciel libre est plus adapté? Chantal a parlé d'un mélange entre cathédrale et illuminé. D'une certaine façon, les illuminés peuvent-ils construire à leur façon une cathédrale nouvelle qui impacte et qui s'oppose à la cathédrale classique? Le capitalisme ayant montré en 2 siècles dans le monde industriel qu'il ne pouvait pas faire mieux dans son optique, le problème c'est est-ce que l'optique nouvelle n'est pas déjà en marche. Alors, on a cité 2 compères que vous connaissez tous, Stallman et Gates, qui de certaine façon se rencontrent. Peut-être avec des arrière-pensées différentes, mais pour Stallman et pour Gates, finalement, le logiciel libre ouvre une brèche politique. Alors, comme nous ne sommes pas très nombreux, on peut le déplorer ou pas, mais comme nous ne sommes pas très nombreux, n'hésitez pas, le monde du livre, c'est un monde interactif, n'hésitez pas à joindre vos talents, à nous joindre le talent, à nous apporter la contradiction, il n'y a aucun problème. Si moi, je suis trop vieux pour supporter ça, Bruno prendra la relève.
Oui. Pour éviter, il est de bonne heure, vous avez fait la fête hier soir, pour éviter, parce qu'on va essayer de balayer des concepts qui sont à la fois des concepts d'économie, des concepts politiques, parfois c'est un peu austère, donc pour garder un feuilleton qui soit relativement qui vous permettra de rester concentré, on va le faire sur un fil rouge, du Linux, VS, Microsoft, mais parce que c'est exemplaire. Donc
Notre ambition, c'est que sur les 40 transparents qu'on va présenter, il y a au moins un transparent qui va parler à chacun d'entre vous, ça ne sera pas le même, mais disons, c'est ça notre ambition. Et donc à la fin, on fera un petit sondage pour voir s'il y a au moins un transparent que vous avez.
Alors la question que Bill Gates avait posée il y a maintenant quelques temps, c'était qui peut se permettre de faire travailler des professionnels pour rien? Quel lobbyiste pourrait mettre 3 années dans la programmation, détecter tous les bugs, documenter le produit, les distribuer pour rien?
À l'époque, Microsoft était composé de 2 personnes.
Et puis Bill Gates s'inquiétait qu'il y a des gens qui lui pillaient son code pour en profiter pour eux-mêmes et les autres. Donc Bill Gates ne pouvait même pas le rêver, la communauté du libre l'a fait. Peut-être une précision aussi pour...
Oui. On veut éviter, on l'a rencontré dans le domaine universitaire, on a vu, je vois que certains ont des Macintosh, on est sur la guerre de religion. ravages que ça fait dans le domaine, dans tous les domaines, y compris dans le domaine informatique. Notre idée n'est pas de crier sur telle ou telle façon de faire. Le problème, et je pense que c'est le mot-clé, c'est la culture et l'éthique. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on veut montrer ici, ce n'est pas que les logiciels libres sont meilleurs, même s'ils le sont, en partie, mais c'est qu'ils partagent une vision et un mode de production totalement différent. C'est là-dessus que l'on va se baser dans notre fil directeur.
Surtout que ouais, stigmatiser Microsoft, ça permet peut-être de servir de coagulant pour une communauté. Mais à mon avis,
on a mieux à faire, je pense.
Oui, puis vous avez mieux à faire. Microsoft a réussi de manière brillante quand même dans sa partie pendant un certain temps sur un certain modèle. Et si ce modèle aujourd'hui est remis en cause, ce n'est pas parce qu'on va le dire, c'est parce qu'il y a un certain nombre de paramètres, un certain nombre de facteurs qui contribuent au changement de ce modèle. Et ça suffit en soi à se positionner par rapport au livre de manière très tranquille, sans rentrer dans un clivage qui, à mon avis, est stérile, sinon contre-productif, parce qu'il pourrait faire écran aux vraies valeurs du livre qui se suffisent à elles-mêmes pour porter cette expérience vers le succès.
Donc, là aussi, les valeurs sont différentes, et c'est des valeurs qui ne sont pas utopiques, puisqu'elles ont montré qu'elles marchaient. Donc, d'une certaine façon, c'est la vision économique que l'on veut étendre aussi, hein. Aux valeurs très fermées, très planifiées, d'un monde industriel qui a connu son apogée, je connais son apogée, peut-être commence à être la pente descendante, s'oppose ouverture, partage, éthique, on le dira un peu plus loin, mais dans le livre, on vit parce qu'on partage. Je ne peux que vous conseiller la lecture des bouquins divers de Manuel Castells, qui explique bien ça, hein, c'est un sociologue de l'Internet, qui a commencé sa carrière comme urbaniste, donc c'est intéressant de dire finalement, c'est cette culture, cette éthique qui s'oppose le plus aux valeurs traditionnelles. Je partage, je suis reconnu parce que je partage, j'existe parce que je partage.
Et le mot guerre n'est pas un mot trop fort, hein, puisque la montée en puissance des logiciels libres inquiète singulièrement Microsoft. Ils ont nommé un monsieur anti-Linux. Ça s'agit de partout, on sent qu'en ce moment chez Microsoft, ils ont peur de perdre la ville de Paris après avoir perdu la ville de Berlin. Ils se posent des questions fondamentales.
Ils sont en train de perdre l'Ardèche.
Ils sont en train de perdre l'Ardèche. Ils ont perdu l'Ardèche.
Oui, coupez.
Dans une guerre, il faut deux opposants. Et je ne pense pas que, en tant que membre de la communauté du logiciel libre, je n'aime absolument à rien contre Microsoft. Donc s'il y a une guerre, c'est une guerre de modèles.
Tout à fait. Non, mais vous faites bien, vous faites bien insister là-dessus.
Parce qu'elle se dirige aussi bien, alors je vais faire plaisir à plein de gens, elle se dirige aussi bien à d'autres entreprises qui travaillent sur ce modèle-là, qu'elle s'appelle IBM, qu'elle s'appelle Sun, même si les gens mettent souvent deux fers au feu. Mais c'est vrai que c'est pas ciblé sur deux.
C'est une opposition de modèle et de valeur, vous êtes très bien de nous faire préciser, vous avez tout à fait raison. Alors, comme nous, quand on parle, quand vous parlez, parlez peut-être plus fort pour que les gens du fond entendent. Vous avez tous entendu la...
Ok, très bien. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est pas le logiciel libre, il se positionne ailleurs et différemment. Donc il n'est pas convoqué sur un champ de bataille qui serait le même modèle. Donc on est bien d'accord, c'est pas vous existez ailleurs, autrement, sur un autre modèle, pour autant... Vous représentez un ennemi redoutable, hein, qui vient attaquer le modèle structurel fondamental d'une entreprise comme Microsoft. Effectivement, vous faites le et eux, ils font la leur. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et il se trouve que Linux est un ennemi.
Ils ont une réaction qui est nette depuis 3 ans, on va dire. Au fait que le logiciel libre existe, jusqu'à il y a 3 ans, ils savaient dire rigoler.
Oui. Là, il y a des matchs critiques qui commencent
et là, depuis 3 ans, il y a des réactions qui sont nettes, qui disent que pour eux, ça les concerne.
Et qui sont le vrai. Est-ce que je peux être non pas désagréable, mais taquin? D'une certaine façon, jusqu'à 3 ans, Microsoft voyait le monde libre comme on peut voir l'université, s'il y avait les t-shirts et les choses. Bon, je ne suis plus depuis un certain temps, des adolescents boutonneux. Bon, ce n'est plus le cas, même s'il en reste, heureusement. Et c'est deux modèles totalement différents et notre. idée, notre imagination, c'est que le modèle de Microsoft, dans certains cas, se heurte à un mur, et il faut donc des modèles alternatifs, et comme modèle alternatif, on pense que le mode de production du développement, le mode de production du libre, est un modèle intéressant. Oui.
Oui, vous dites que Microsoft, jusqu'à il y a 3 ans, il y a eu un changement de phase dans son attitude. Je ne suis pas certain. Souvenez-vous de Microsoft Network qui allait bouffer Internet.
Oui,
souvenez-vous que Internet a été fait à partir de logiciels libres. Donc, de deux choses l'une, ou il est idiot, ou il se fait passer pour un idiot.
Je ne pense pas qu'on puisse penser que Microsoft soit idiot. Je pense que Bill Gates est assez génial. Mais
MSN est antérieur à il y a 3 ans.
Oui.
Et c'était pas rien, si vous vous souvenez.
Oui, mais c'était des champs de business différents. D'un côté, vous aviez le système d'exploitation. Oui, bien sûr, on y vient. Vous avez absolument raison. Mais c'était quand même deux champs de rentabilité différents pour Microsoft. MSN, réseau propriétaire avec des rentabilités particulières. Et l'OS plus les suites qui sont montées dessus sont encore autre chose. À mon avis, le premier business model de Microsoft, c'est plutôt les OS. Et là, plutôt fixe, mais vous avez parfaitement raison. L'Internet, c'est les logiciels libres, c'est MSN, c'est le virage raté. On y revient après.
D'ailleurs, le mot-clé pour répondre à ce que vous dites, c'est le recyclage. C'est-à-dire que Bill Gates, étant intelligent, essaye de recycler d'autres valeurs. On est d'accord, oui.
Quand vous avez pris une marque quelque part, en général, vous en souvenez si vous êtes
intelligent. Oui, parfait.
Sauf que quand vous êtes puissant aussi, vous êtes arrogant. Et Microsoft est arrogant. Et des claques, il en faut des fortes hein, pour son
bon, okay. Nous sommes au transparent 8 sur 41, Charles.
Et donc, il y aura une heure, Chantal précisait, je te dis, qu'il y aura une heure de questions à la fin. Donc, on va essayer de dérouler, mais vous pouvez quand même intervenir. On fera plus vite les transparences. Ce qui est intéressant, c'est la concentration aussi. Alors, peut-être un peu, comment en sommes-nous arrivés là? Donc, des valeurs culturelles fondatrices de quelques pionniers, ça c'est l'histoire. Les spécifités de l'économie post-industrielle, on va le développement du réseau Internet. Tout ça se conjugue pour créer un système économique différent, un système sociopolitique différent, qui annonce pour nous la disparition de Microsoft. Mais plus globalement, c'est vraiment un nouveau modèle de société qui est en voie de développement. Alors, au commencement était la grande histoire du livre, hein, le mythe, le MIT de Stallman. Là, apparemment, on a affaire à des connaisseurs, donc comme on ne savait pas, on a essayé de. Donc, on ne va pas faire vraiment dans le détail. L'imprimante et le nouvel ordinateur, le retour aux sources, hein, vous connaissez tous les raisons pour lesquelles Stallman a développé GNU.
Le grand dilemme, en fait, c'est vraiment le droit d'usage et le droit de possession. Bon, chacun voit les problèmes qu'il y a derrière. Et là, sur ce point, même Bill a du mal à abandonner, effectivement, sa vision du droit propriétaire.
Donc ça c'est quelques rappels qui sont pas forcément utiles, on n'insistera pas, ça nous fait gagner du temps. Idem pour la licence GPL qui est fondamentale et fondatrice dans notre expérience du livre.
Je crois que c'est vraiment moi.
Excusez-moi. Pardon ?
Je l'avais dit qu'il aurait des spécialistes en face de lui, c'est pour ça qu'il est aux manettes. Moi, c'est pas moi.
Il faut réveiller la santé de temps en temps.
Ouais, non, c'était très didactique.
Le logiciel libre associé en réseau, donc on va développer ses caractéristiques fondamentales, mondialisation, développement d'Internet, on y reviendra en rebondissant sur la question précédente, et l'économie post-industrielle, immatériel, symbolique, informationnel. Donc, en toile de fond, l'information, la connaissance, le capital intellectuel, l'imagination, la créativité humaine incarnent désormais la valeur. Et le capitalisme s'organise et tente de définir ces nouveaux espaces de profitabilité. Ben oui, il s'agit de migrer d'un capitalisme industriel basé sur la rareté, sur la matière. On passe à un capitalisme plus immatériel. On parle beaucoup de société de l'information. Et donc, comment on va organiser la rareté dans un monde qui se caractérise par l'abondance? Il s'agit de clôturer les espaces de profit. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre importante au niveau des brevets, des licences.
Le grand enjeu du capitalisme, c'est pour ça qu'on va au-delà de ce que offre le livre, c'est comment faire travailler ensemble des compétences et des talents qui sont souvent des talents intellectuels ou cognitifs, si vous me passez ce terme un peu pédant. Avant, lorsqu'on organisait une société industrielle, bon, on pouvait classifier les gens et d'une certaine façon, on était contre l'interaction. Le Fordisme et le Toyotisme, c'était comment planifier la façon de faire. Donc, de planifier donc a priori. Dans les cathédrales nouvelles, en fait, il y a une imagination, peut-être pas au pouvoir, mais qui se développe, et c'est dans les interactions des développeurs, des analystes, des créatifs, qu'une société nouvelle se crée, et ça, le capitalisme c'est très mal gérer ça. Je ne suis pas sûr qu'un modèle sache gérer ça, mais ce qui est sûr, c'est que ça pose un problème évident à des entreprises très cadrées. On a parlé tout à l'heure d'IBM, bon, c'est pareil pour IBM, Microsoft et autres. Comment libérer l'entreprise de ses frontières, la rendre poreuse, et est-ce qu'il y a encore une entreprise derrière, hein, c'est le problème. Le projet, les projets Linux, les projets open source contre les entreprises, et ce n'est pas vrai uniquement dans le logiciel, c'est vrai dès qu'on fait appel au talent et à l'intelligence et à l'intellect humain.
Donc ça pose d'ailleurs la question des formes organisationnelles, des entreprises libres, hein, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans le débat.
C'est une des réflexions que je lançais à HEC, j'ai un petit peu de mal parce que c'est quand même un peu, disons, un contre-courant, ou du moins c'est en avance par rapport à ce qu'on essayait de faire, comme l'art du manager était d'organiser effectivement des gens relativement de façon efficace, de façon relativement planifiée. Comment développer une intelligence collective lorsqu'on ne sait pas trop où on va?
Donc les caractéristiques de la société en réseau qui évolue, on a parlé de la mondialisation, enfin les économies nationales, globalisation financière, conscience planétaire partout présente à elle-même. Deux visions de la mondialisation. Microsoft, c'est une approche de marché-monde dans une vision atomisée et quantitative. C'est vraiment ça, c'est comment je vais faire croire mes parts de marché et comment je fais de l'impérialisme commercial. Et le logicialisme, c'est bien un phénomène mondial, mais c'est une communauté reliée. Microsoft a une version quantitative de son mondialisation et le logicialisme aurait plutôt une approche qualitative de reliance, de connectivité pour travailler ensemble, développer l'intelligence collective. Alors, on ne peut pas parler de logiciels libres sans parler d'Internet, vous l'avez évoqué tout à l'heure. On pourrait même dire que les logiciels libres sont des enfants naturels de l'Internet.
Et inversement.
Oui,
c'est
nourri,
c'est
la poule et l'œuf.
Donc les logiciels libres à l'Internet, ces langages, ces protocoles partagent fondamentalement les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Hein. Les premiers logiciels libres, on pourrait dire, c'est effectivement les standards Internet, et ils se combinent et se nourrissent réciproquement. L'Internet pour le logiciel libre, c'est partout, c'est de la naissance au développement. Alors pour ce qui est de la naissance, on pourrait adapter ça, mais peut-être que vous avez
d'autres actes de naissance.
D'autres actes de naissance.
On a le mail de
Pardon ?
Le mail de Stone.
Oui, bien sûr.
Voilà. Sinon, il y a l'appel de Torvalds qui invite à travailler autour du
projet. Si vous voulez, juste un point entre Stallman et Torvalds, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que Linux a montré que tout le monde pouvait apporter sa pierre. Stallman, qui est effectivement le fondateur, c'était quand même, entre guillemets, un génie qui a voulu partager. Mais entre un génie qui veut partager et Torvalds qui fait appel dès le début de sa création à d'autres, il y a sans doute une légère
Si vous reprenez le mail initial de Stallman, il dit je vais commencer à travailler sur un truc que j'appelle nous.
D'accord.
Tout aide est bien que ce soit des dons, du matériel ou de la force. Donc, c'était déjà dans les
d'accord.
Des news de l'époque.
Quoi. Donc on changera ce transparent.
Si on remet ce texte et cette formulation en regard de la lettre, c'est un réveil matin, non, il y a quelqu'un qui est...
Debout ! C'est l'heure !
Si on remet ce texte en parallèle avec le texte de Bill Gates, qui était beaucoup plus agressif, sur qui peut se permettre, on a bien deux visions, mais même deux formulations dans les mots, il y a une vraie humilité, là, hello à tous, je travaille sur un truc, je vous propose, vous me dites bien, mal, peu importe.
Ça c'est bien comme acte de naissance de Linux. Le libre est plus vieux que ça, le libre date d'avant Stallman.
Absolument.
Il y a pas mal de projets libres qui datent de bien avant 83. L'histoire du libre, c'est l'histoire de l'échange scientifique.
Oui, et même aussi avec les entreprises.
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez, la première fois que vous intervenez, vous présenter, ça serait sympathique, et puis intervenir de façon extrêmement brève, pas de dialogue, de manière à ce que les petits camarades qui vont passer après puissent aussi présenter. On est très très chargé. Mais c'est bien de vous présenter ici.
Jean-Claude Fernandez, CNRS, pratiquant du libre depuis 1974, avec un certain nombre de collègues scientifiques, et disposant de sources code distribuées par des entreprises, à commencer par IBM. Le modèle du logiciel n'avait rien à voir avant l'arrivée de Microsoft sur le marché.
Vous faites bien de préciser cela, parce que d'une certaine façon, ce qui est important, c'est de voir que ce qui était dans la sphère scientifique. Et effectivement, les chercheurs, il y a très très longtemps, j'étais chercheur avant de tomber dans la mauvaise marmite de la gestion, c'était un cercle fermé entre scientifiques, mais c'était un monde. Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que ce monde de développeurs et de talents scientifiques tout à fait intéressant est en train de pénétrer beaucoup plus qu'avant l'ensemble des sphères économiques. Mais sinon, je suis d'accord, on va mettre un mutin naissance beaucoup plus tôt. Mais on vieillit le monde du livre, tant pis, ce sera comme mes cheveux blancs.
Voilà, donc de la naissance, oui. De la naissance jusqu'au développement, donc l'enjeu de connectivité, traçabilité, mémoire, capitalisation, etc., tout ce qui est vécu au niveau par le réseau, grâce au réseau, sa diffusion, l'effet réseau, allez-y.
Si je peux vous permettre, je vais vous parler, c'est que avant Stallman, on faisait du livre sans savoir.
Exactement. Gérard Delafont, tout un projet.
KDE, hein, ici c'est KDE.
Ici pour KDE, paraît-il. Donc avant, on faisait du libre sans savoir. Et comme il s'est mis à y avoir un échec propriétaire qui s'est mis à enfermer les gens derrière des barrières, des normes, des secrets de code, etc., il y a eu un mouvement de réaction en disant on va faire du libre exprès. Et je crois que finalement cette vraie naissance du libre, c'est en fait ce que vous voulez dire, c'est la naissance du libre conscient et en réaction justement au logiciel fermé.
Oui, mais je suis d'accord, mais il y avait une double caractéristique. Il y avait monde scientifique et puis il y avait aussi, d'une certaine façon, un monde utopique. On sait bien que les chercheurs travaillent pour un avenir lointain. Là, d'une certaine façon, on voit que ça heurte. Certains ont dit que Bill avait compris ça, et en 95 avec le passage MSN à Internet, puis un peu plus tard. Mais ce qui est sûr, moi je fais actuellement une étude parmi les grandes entreprises de la Fondation HEC, les gens comprennent que le mode de management d'une entreprise est en train d'évoluer, ils ne savent pas trop pourquoi, mais c'est cette notion de travail collaboratif qui fait qu'on va partager avant même de savoir le gain immédiat qu'on va retirer. Je crois que c'est ça qui fait basculer. Bien entendu, les réseaux, depuis l'Antiquité, depuis les Phéniciens, il y avait des réseaux. Simplement, c'était une partie, d'une certaine façon, qui donnait bonne conscience, mais la partie la plus importante, c'était un fonctionnement extrêmement planifié, extrêmement cadré. Et dans la planification, le capitalisme avait battu le socialisme de façon évidente. Maintenant, ce qui se trouve, c'est que ce n'est plus de l'utopie, ce n'est plus les développeurs ne sont plus dans leur sphère unique, ils commencent à interférer grandement sur le mode de production capitaliste. C'est simplement ça qu'on veut dire, mais vous avez raison pour tout le reste.
Oui, moi je voudrais quand même, donc Jean-Paul Bernard Pute, je voudrais quand même dire que y a, peut-être que la recherche est un système libre, mais je dirais non. Je dirais non pourquoi ? Parce que j'ai moi-même fait de la recherche, je sais comment ça se passe. C'est à celui qui va publier le premier. Et on ne passe pas les sources de son article avant d'avoir publié. Là, c'est quand même...
La recherche en mandarin, ça serait bien.
Là, c'est complètement différent. Les sources, qui peut les comprendre, peut les prendre très facilement. Donc, il n'y a pas ce clivage.
Mais on est aux limites toujours de deux concepts, coopération, compétition. Hein. C'est vraiment entre ces deux
D'accord. Si on remonte dans l'antiquité, je crois savoir que le savoir en mathématiques et philosophie s'est changé par une appréhente et que les grands maîtres de l'antiquité faisaient payer leur conférence, leur enseignement à leur disciple, et que celui-ci avait un zone disclosure agreement, n'avait pas le droit de redistribuer gratuitement à l'extérieur. Donc il y a une première révolution du livre qui date de 2000 ans peut-être, on a commencé à partager ses scientifiques alors qu'avant il était captif.
Galilée qui disait « J'écris dans la langue des poissonnières parce qu'il faut que tout le monde me comprenne. »
Très bien. Merci de ces précisions.
Alors, pendant ce temps-là, le Microsoft est confronté à l'Internet, donc on ne revient pas à ce que l'on a déjà entamé. Donc, le fantasme du réseau propriétaire, un simple ordinateur connecté dans un bout du couloir du siège... Microsoft qui envoie des veilleurs dans les universités pour voir ce qui s'y trame et ce qui s'y passe. Microsoft et ses problématiques virologiques avec l'effet réseau, la puissance de démultiplication de l'Internet va prendre des proportions mondiales. On vous passe les détails dans lesquels Microsoft est aujourd'hui en problème. L'économie informationnelle, donc c'est l'abondance contre la rareté, on en a parlé un peu, des biens non rivaux, non exclusifs.
Et justement, sur ce point, comment faire en sorte, on sait bien que l'économie, c'est une façon d'utiliser des ressources rares. Comment gérer un problème lorsque la rareté n'existe plus? Comment, d'une certaine façon, créer artificiellement la rareté? Et c'est le problème commercial des entreprises actuellement.
Et l'avenir autour des brevets va dans ce sens. Hein. On va créer de la rareté de manière artificielle. Logiciel, bien d'information, coût de développement concentré pour la règle exemplaire, reproduction et diffusion à coût tendant vers zéro. Logiciel comme la liberté, dessus, sous temps qu'on ne s'en sert pas. Et c'est pareil, hein, pour revenir sur la notion d'organisation de la rareté. Comment ils s'organisent pour gérer des clôtures et donc des zones de profit.
Je représente Open Office, je ne représente pas l'entreprise Sun. En fait, je suis prof, je suis à l'éducation nationale. Je le précise pour éviter. Je voulais juste dire que il y a quelque chose que j'ai encore pas vu, c'est on est en train de modifier carrément le législatif, hein, d'utiliser le législatif pour justifier des choses qui ne le sont pas toujours. C'est un des nouveaux points de la puissance financière, enfin, qu'utilise Microsoft pour contrecarrer. Et je trouve c'est inquiétant parce que là, on s'attaque à d'autres libertés que celles du partage des connaissances qui sont les fondements du libre.
Dans les nouvelles clôtures, il y a les clôtures juridiques, les droits, les brevets, etc. C'est fondamental.
C'est une dérive en ce moment. Il y a quelques tous qui pourraient utiliser finalement. C'est attaqué par deux fronts.
Mais on n'est pas tous innocents, même les gens du livre ne sont pas forcément innocents là-dessus, parce que d'une certaine façon, on a toujours la tentation de la rémunération à court terme, alors que d'une certaine façon, c'est la reconnaissance par ses pairs et le fait d'avoir participé à un bien commun. C'est ce que Bruno Le Cros dit fort bien, c'est on est en train de constituer un patrimoine public qui s'oppose à la notion de propriété, même publique. C'est plus la propriété publique, c'est le patrimoine public.
Ça appartient à personne, à tout le monde. Donc,
et c'est toujours un problème de diffusion d'informations, de contrôle de l'information.
Ouais, mais il y a un risque juridique, vous avez raison.
Ah, le risque juridique, il est de plus en plus menaçant. Absolument.
C'est une phrase clé.
Il y a la Dulac qui est présente, hein, c'est pour des fondés de Givant. Alors, une autre évolution de l'économie, dont on a parlé d'économie d'information, la rareté contre l'abondance, il y a une autre dimension de l'économie qui prend de plus en plus de place, c'est la notion d'économie symbolique, qui peut être matérielle et immatérielle.
Alors ne faisons pas de contresens sur le mot symbole. Hein. Quand on parle de rémunération symbolique, c'est pas parce que je reçois un franc que c'est une rémunération symbolique, c'est pas symbolique en sens. C'est symbolique parce que ça représente beaucoup.
Hein. Tu as peut-être préciser cette notion de symbole. Oui, peut-être dire que l'économie, même l'économie classique ou matérielle, inclut de plus en plus le symbolique. On peut imaginer quand on achète des chaussures, on achète quelque chose de pratique pour marcher. Le prix d'une chaussure en soi, ça a une valeur d'un marchand relativement.
Ça vaut 100 balles, mais avec un petit truc, ça vaudrait 600.
Voilà, donc la valorisation des produits matériels se fait par du symbolique, donc par de l'immatériel. Ce qu'on nous vend là, c'est plus des pompes pour marcher, c'est des pompes pour marcher la tête haute, pour marcher fièrement. Et on existe.
C'est copyrighté, copyleft.
On est baissé de ses pieds, tu vois, mais on peut se demander.
Ce sont des signes,
oui.
Voilà, des signes ostentatoires d'une religion. C'est pour dire qu'il y a de plus en plus de produits matériels qui construisent notre identité. Ou autrement, vous avez également dans la notion de temps passé, la première industrie mondiale, c'est le tourisme. Là, on vous vend quoi? On vous vend une expérience, on vous vend de la conscience, on vous vend de l'immatériel, la télé, enfin, les médias, etc. On vous vend de la conscience. Donc il y a une part importante de l'économie ou de la valorisation aujourd'hui dans l'économie qui n'est pas liée au matériel, au physique, mais qui est liée à l'immatériel ou au symbolique.
Très connu parce que vous faites partie d'un groupe.
On nous vend l'identité. Quand on sait que le livre, c'est une machine à fabriquer une identité quand même. Hein. On vous reconnaît, vous avez une identité, vous construisez votre jouissance personnelle pour construire du patrimoine public et cette articulation entre individus et collectifs, ça c'est la clé de voûte de tout système politique. Comment arriver à faire coïncider le désir, le plaisir, la réalisation de soi avec la constitution du collectif, du patrimoine public et du libre? Le libre a là des clés qui sont fondamentales. Vous n'êtes pas dans l'exclusion. Enfin, on n'est pas dans le privé, on ne prive pas les gens. On ne fait pas du business sur le dos
des gens qu'on tient en vie, à ceux qui peuvent s'offrir, et des gens qu'on tient envieux, c'est-à-dire qu'on voudrait, ou qui servent de miroir aux autres, dans lesquels ils peuvent se
donner. D'une certaine façon, l'économie capitaliste avait essayé de tirer parti de ça en développant ce qu'on a appelé il y a une dizaine d'années des échanges gagnant-gagnant. Mais ça, ceci va bien au-delà, c'est-à-dire que quand on parle d'échanges gagnant-gagnant, c'est des échanges quasiment synchrones, je te donne, tu me donnes. Là, c'est des échanges asynchrones qui se passent ailleurs, dans l'espace et dans le temps, c'est tout à fait différent. Même si, encore une fois, il y a une tentation de recyclage de l'économie dominante.
Alors, le capitalisme et l'économie symbolique, le tout marchandise, donc ils essayent de tarifer, de vendre notre temps, notre expérience, notre conscience, notre identité, notre plaisir, notre culture. C'est énorme, hein, les champs dans lesquels... Les nouveaux champs d'investissement du capitalisme, c'est pas sur le nickel ou c'est pas sur l'or, même si c'est sur ces champs-là. Donc, c'est des champs qui sont immatériels et symboliques. Encore une fois, là, le modèle du libre offre, à mon avis, des atouts qui sont des atouts très forts. La notion de temps, par exemple, hein, les développeurs de logiciels libres, ils passent un temps fou à faire des choses qui leur plaisent, donc ils travaillent leur identité, ils travaillent leur temps, leur expérience, etc. Donc c'est fondamental ce qui est induit par le modèle de développement du logiciel libre sur ces aspects-là, qui, encore une fois, sont les nouveaux champs de profit hein, de l'économie nouvelle. Oui, on l'a dit, le libre et l'économie symbolique, c'est produire tant qu'on ne compte pas, expérience qu'on partage et qu'on développe, conscience et de l'éthique, identité, reconnaissance, plaisir, jouissance, le pied du développeur et le pied du don. On donne ce plaisir particulier, et la culture, c'est un nouvel être ensemble. Alors, ce qui fait que le libre, dans l'économie, il a une place un peu particulière, qui serait celle du chien dans un jeu de quilles. Il remet en cause, on l'a dit, il est mieux adapté aux mutations de l'économie, économie informationnelle, économie symbolique. Il remet en cause, il impacte l'économie classique, d'entreprises aussi puissantes que Microsoft, c'est quand même pas rien. Et il remet en cause les fondements même de l'économie capitaliste, la concurrence, le capital, l'entreprise, le contrat.
Alors la notion de contrat, la notion de contrat de travail, la notion aussi sur les brevets, on en a parlé vaguement, c'est vraiment fondamental. Qu'est-ce que j'échange? Je suis au service de quoi exactement? Comment l'échange se fait? L'échange a-t-il un sens au niveau uniquement numéraire, etc.
Sur réciprocité aussi, le client, le fournisseur va essayer de développer un petit peu la concurrence. Le logiciel libre entre en concurrence directe avec les logiciels propriétaires, hein, on l'a dit. Donc c'est en ça qu'ils sont intéressants, parce que limite des gens qui sont ensemble, qui aiment bien les papillons rares, ils n'ont pas d'impact sur l'économie. Là, il se trouve qu'encore une fois, les logiciels libres, ils ont une double nature, une nature d'être un produit, un ensemble de fonctionnalités informatiques, mais ils sont aussi un ensemble philosophique. Le mot liberté, la politique, c'est revendiqué dans la connaissance de Salman au moins. Oui. Oui, on y vient, on a un slide là-dessus. Le capital, le logiciel libre a été créé et développé en dehors et à côté du modèle capitalistique, guerre à la récup. Parce qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entreprises instrumentalisent le libre pour leur propre modèle économique, pour se différencier de manière concurrentielle par rapport à d'autres. Là, on est dans le champ, c'est plutôt l'économie du libre. C'est
quand IBM a sauté sur Linux en 97, ce n'était pas parce qu'il était tombé dans le libre, mais parce que c'était une façon de se différencier par rapport à d'autres. Il y avait peut-être d'autres idées aussi, mais... Et c'est normal, ce n'est pas un jugement de valeur. Je serai à la tête d'IBM, hein. Je ferai sans doute ça, parce que je ne peux pas changer, on ne peut pas changer la façon de fonctionner une entreprise. C'est un peu pour ça qu'on parle de la mort de Microsoft, du moins de Microsoft telle qu'elle est, parce que pendant 20 ans, on n'a pas pu organiser sa façon de faire de certaine façon, et maintenant, tout jeter. Hein. Donc, il y a un... Même si on est intelligent et un peu schizophrène, on ne peut pas aller contre sa nature. C'est un peu pour ça qu'on dit que le modèle capitaliste est quand même extrêmement différent du mode de production de logiciels libres.
Et la liberté est une valeur non exclusive, hein, et même pour les plus opportunistes. C'est-à-dire que la force du libre, à mon avis, c'est d'être capable d'être récupéré sans mourir. C'est un peu ça le truc. Mais a priori, la liberté, il n'y a pas de raison, puisque c'est libre, qu'une entreprise ne le récupère pas. Puisque par définition, elle a le droit de le faire, donc il n'y a pas d'exclusive particulière. Ce n'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Pour autant, une entreprise...
Vous avez tous reconnu la phrase de... Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Non, ce n'est pas Robespierre, on le croit, mais ce n'est pas Robespierre. C'est Saint-Just. Qui a dit Saint-Just? Vous revenez en seconde semaine.
Là, c'est l'humour de mon ami Bruno. Petit cacœur.
Voilà, je donne comme je suis. Donc là, on revient sur les problématiques d'identité. Cette notion d'identité nous paraît structurante de la nouvelle économie. En ouvrant l'identité, comment on va construire des nouveaux modes d'être ensemble et de distribution réciproque d'identité. Le réseau Internet, vont là d'effets miroirs ou d'effets d'effet positivants sur les aspects identitaires. Donc on a dit, le livre interroge la notion de travail aussi. Je vais vendre ma sueur pour assurer ma survie. C'était le,
c'était tu gagneras ton pain à sueur de ton front, Genèse. Voilà. Ça date de quelques années.
Donc là, on va arriver à coupler. La notion de travail explose. Le séquencement, je travaille, je suis à ma peine, j'ai des loisirs, je fais 35 heures et un quart, 35 heures et demie. On s'en fout complètement. Il y a un brouillage des frontières entre la réalisation de soi, le plaisir, le travail. Tous ces concepts, qui sont des concepts organisationnels du mode capitaliste, explosent complètement. De la connaissance à la reconnaissance, ça aussi, c'est fondamental.
Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, bien entendu, il y a 50 ans, donc, les chercheurs et les profs, et disons ceux qui pouvaient organiser leur temps d'une certaine façon, le travail plaisir, c'était déjà le cas. Ce qui impacte l'économie actuelle, c'est que même dans les entreprises classiques, on ne peut plus se contenter de donner, comme Chantal le suggérait tout à l'heure, des coups de badine ou des coups de hache. Ce n'est plus possible. C'est plus possible. Même pour vous réveiller, je ne peux plus faire ça. Si je ne vous intéresse pas, même si je vous frappe, ça va mal se passer. Pas parce que je suis assez costaud, mais même.
La notion de client-fournisseur, on parle beaucoup d'utilisateur-développeur, là aussi, on est dans des catégories bien distinctes. Moi, je fournis, toi, tu achètes, et puis on a un échange réciproque et synchrone dans le cadre d'un transfert de propriété dans un marché à un moment donné.
Pour revenir à votre question.
On va y revenir un peu après. Là, c'est pareil, il y a un gommage de cette frontière, de ces catégorisations-là. L'utilisateur devient coproducteur, enfin, tout ça, ça se mélange. Échange asynchrone et asymétrique, et l'échange commercial est basé sur l'échange de propriété sur un marché dans un rapport symétrique entre l'acheteur et le vendeur. Je détermine ce que je te vends à ce moment-là et je te demande tant, je tarife les choses et on s'échange des propriétés.
Alors, c'était essentiellement vrai sur les produits, mais même au niveau des services, d'une certaine façon, quand on paye à l'acte, quand vous avez besoin d'une hotline, je ne sais pas si c'est le cas avec l'Open Office, mais ça marche très bien sans cela. Mais supposons que vous payez hotline coup, ben là, on peut dire que c'est un échange où si vous ne payez pas tout de suite, vous n'avez pas le service demandé.
Alors que dans le logiciel libre, il y a une dissymétrie spatiale et temporelle, ce qui est vrai sur Internet aussi d'une certaine manière. Je donne ici, je reprends par ailleurs. Les échanges ne sont pas organisés, structurés, catégorisés. Moi, je suis un client, toi, tu es un fournisseur, et on s'échange à un instant T une propriété de manière exclusive sur une problématique ou un produit donné. Ça, c'est fondamental aussi, parce que ça veut dire je donne et je reçois, mais de manière collective, et non pas de manière synchrone et réciproque dans un endroit donné, un instant T.
Ce qu'on n'a pas dit, mais ça, c'est presque évident, c'est quand il y a un rapport symétrique, ça conduit très souvent au rapport de force. Donc, si la lutte des classes avait un sens lorsqu'il y a des échanges du premier type, dans le second, on voit assez mal une lutte de réseau peut-être, une lutte de classe est gommée par le fait que, non pas que les hommes soient devenus meilleurs, mais parce que ça a plus de sens.
Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de rapport de force dans la négociation du contrat d'achat ou du contrat de travail. L'entreprise, on l'a déjà dit, on en a parlé tout à l'heure, puissance et qualité de développement en bazar, donc ça rejoint ce que Chantal disait en introduction.
On a enlevé le dé de hasard.
À l'inverse du modèle d'entreprise, c'est Schumpeter contre des cartes et des... Le chaos est une espèce de soupe originelle, de chaos primitif. Et comment les choses vont se coaguler pour arriver à construire à la fois du sens, mais aussi du contenu, des produits. Les logiciels libres, du point de vue Microsoft, sont des produits qui deviennent concurrents.
Alors, juste un point sur la destruction créatrice de Schumpeter. Bon, vous savez que Schumpeter voyait l'économie comme un problème de percolation, de diffusion. Il y avait un secteur industriel qui était remplacé par un autre secteur industriel. Mais le mode de production n'était pas complètement changé. Là, c'est du Schumpeter libre, je ne sais pas si ça a un sens, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce qui va remplacer les modes de production classiques. Donc non seulement il y a des secteurs qui tombent, mais la façon de constituer ces nouveaux secteurs pose problème. Si vous avez lu le livre de celui qui a écrit La fin du travail, Jérémy, eh bien vous verrez que lui est très inquiet parce qu'il n'est pas sûr que Schumpeter est encore le droit de citer. Est-ce que les nouvelles formes de production vont créer suffisamment d'emplois pour se substituer au mode de production classique. C'est une interrogation, on n'a pas de réponse.
Alors l'efficacité, ça c'est pareil, hein, c'est un peu le livre qui va aller les croupières sur le terrain même du capitalisme classique. Est-ce qu'aujourd'hui le logiciel libre est plus efficace, plus pérenne, plus sûr, plus évolutif que le logiciel propriétaire? Je doute que je trouve ici quelqu'un pour répondre à la négative. Mais c'est vrai, en même temps, pour des raisons de puissance, pour des raisons de transparence, de mobilisation de compétences, là on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas combien Microsoft a de développeurs, mais comparativement à la puissance potentielle des gens qui sont capables d'intervenir sur un logiciel pour en corriger les erreurs, pour les faire évoluer, c'est sans commune mesure. Donc on voit bien que là, l'efficacité même, qui est quand même le discours dominant du capitalisme, nous produisons de l'efficacité. C'était peut-être vrai par rapport à l'économie planifiée, mais par rapport à cette nouvelle économie, cette nouvelle façon de produire de la valeur et des valeurs que représente à la fois le logiciel libre dans ses développements informatiques, mais dans ses développements aussi plus socio-économiques, comment l'efficacité... C'est pas vrai pour cet aspect-là. Le monde du logiciel libre, à mon avis, est plus efficace que le monde propriétaire pour le logiciel. C'est ce qui inquiète Microsoft, au demeurant. On dit que l'économie capitaliste classique est mise en danger par le modèle du logiciel libre, mais c'est vrai aussi pour l'État. Hein, l'économie planifiée, l'État n'a pas beaucoup de part dans le...
Les modes de régulation, pour parler de façon économique, sont complètement à repenser.
On est vraiment dans une logique qui pourrait être une logique de citoyenneté, mais qui ne soit pas top-down, c'est-à-dire que ça ne soit pas poussé par l'État qui, en bon père de famille, dans une vision paternaliste, nous dirait « soyez des citoyens actifs, je ne sais pas quoi ». Là, il n'y a pas de discours, pour le coup. Les gens, ils se mettent au boulot, ils font des trucs, puis ça... mais pas contre l'État. À côté, en dehors, ils font des choses et ils trouvent que ça produit de la valeur. L'État, aujourd'hui, récupère ça, réinvestit, parce qu'ils ont compris les enjeux stratégiques, les libertés individuelles, les problématiques de code source ouvert. Donc les États dans le monde entier, hein, aujourd'hui, réinvestissent le logiciel libre. Mais au départ, le logiciel libre, alors il doit de manière indirecte, parce qu'il aura financé des chercheurs qui auront pu travailler là-dessus et remettre. Mais c'est des effets indirects. Et ça se construit aussi contre une économie d'État. Hein. On ne revient pas au marxisme, à mon avis, c'est les deux modèles qui s'affrontaient.
C'est pour ça qu'hier, pendant que vous faisiez la fête, on a inventé un concept provisoire d'anarchie constructive, mais vous avez le droit de trouver d'autres mots que ça. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Oui.
Excusez-moi, vous vous présentez, vous parlez très fort.
Georges Schubrunner, je suis enseignant en physique. J'ai lu dans les mémoires de Richard Feynman quelque chose qui m'avait intéressé concernant le Salamos. D'origine, c'était le programme de recherche sur la vision de la bombe atomique. Au début, ça a été cloisonné selon la logique militaire. C'est-à-dire que chaque partie, il y avait plusieurs groupes de travail, chacun ne communiquait pas. Et ça a été extrêmement efficace. Et Richard Feynman est intervenu, il s'est rendu compte en fait que c'était la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas. Ça traînait, ils n'arrivaient pas à avancer, d'avoir une bonne idée. Ils ont organisé ça en fait, quasiment de la méthode quasiment logicielle. C'est-à-dire qu'il y avait des échanges qui se faisaient, mais, alors, évidemment c'était bloqué à l'extérieur, parce qu'il n'y avait pas que des échanges ennemis, mais ça a été une méthode complètement anarchique. C'est-à-dire qu'ils se sont débrouillés pour diffuser le maximum d'informations avec Acousia et les chercheurs fondamentaux, et ainsi de suite. Et à mon avis, j'ai un peu l'impression que c'était le début, en fait.
Mais d'une certaine façon, ce qu'on disait dans les laboratoires scientifiques, quand c'est clos, effectivement, il y a des échanges. Maintenant, là, ce qui est intéressant, c'est que le laboratoire, c'est à l'échelle du monde. Mais sinon, vous avez raison, il y a eu des échanges entre chercheurs, même entre mandarins et les petites mains.
Parce que c'était pas même dans les labos de recherche américains, l'idée de, par exemple, de former bien les chrétiens, et ainsi de suite, c'était pas quelque chose de spontané. Les nazis, par exemple, qui avaient des gens extrêmement brillants, qui étaient des gens qui venaient de l'université, mais qui étaient très conservateurs, on va voulu faire ça. C'est pour ça que je suis planté ce programme, soit programme de recherche PR. Parce que tout était centralisé sur une personne. Et c'était un modèle aristocratique. Et cette personne ne croyait pas à la possibilité de développer industriellement la l'énergie nucléaire.
Merci cette précision.
Si on parle de valeurs politiques, anarchie, marxisme, communisme, etc., il y a quand même une question qu'on entend souvent. Le logiciel libre, c'est du communisme. Et moi, je pense que le logiciel libre, c'est du communisme. et la mise en communauté des moyens, etc. C'est manifestement toi,
c'est aussi la définition. C'est libéralisme dans sa définition la plus fondamentale, aussi, parce que c'est la liberté individuelle.
Et la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est pourquoi, alors que toutes les expériences de communisme matériel ont échoué, pourquoi est-ce que là, on n'échoue pas? Et on n'échoue pas pour une simple raison, c'est que dans le matériel, si je vous donne un produit, je ne l'ai plus, alors que dans l'immatériel, si je vous donne un produit, je l'ai encore. Ça ne me coûte rien de vous le donner. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas de limite à l'échange.
Oui, mais ça, c'est au niveau en aval, sur la distribution, la redistribution, le partage. Mais déjà en amont, dans la production, on parlait de centralisation, on parlait de hiérarchisation, on est dans la planification, là, c'est carrément la caricature. Or, le modèle de développement du livre, il n'a rien à voir avec la planification modèle communiste. Il est vraiment... C'est la convergence de liberté individuelle fondamentale contre l'État. C'est des gens qui prennent leur pire effort. On est dans ce tuning entre le plaisir personnel et le patrimoine public. Donc, à mon avis, ça emprunte aux deux concepts. Aux deux bouts du spectre, le libéralisme le plus pur, au communisme le plus
ardent.
Le plus ardent, mais dans ses nobles valeurs, le partage, effectivement, vous avez raison.
Si vous voulez, bon, juste un petit point, j'ai commis il y a une dizaine, une huitaine d'années un bouquin qui s'appelait, le titre était bon, le reste non, de Karl Marx à Bill Gates. Et d'une certaine façon, je sentais vaguement ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que le communisme en tant que mode de production industriel, dans une société où il fallait être efficace, à montrer ses limites, peut-être en partie effectivement parce que vous dites, et aussi parce que on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux, et donc planifier le bonheur comme c'était fait au niveau centralisé, pour moi le communisme qui date quand même, le manifeste de 1848, n'a rien à voir avec le saint-simonisme dont vous vous inspirez peut-être, qui est effectivement un partage en communauté non pas réduite aux acquis par un parti unique. Donc la notion même. Si on assimile communisme et parti unique, on a tout faux. Si on assimile effectivement communisme, anarcho-communiste, capitaliste, le problème, là encore, ce n'est pas de faire de l'idéologie, c'est de montrer que la culture nouvelle et le mode de production traditionnel sont en grande interrogation. Et vous êtes là, beaucoup plus jeune en général que moi, pour participer à ce mode de production, je ne le verrai sans doute pas, qui est en train de se mettre en place. Et ça va bien au-delà des problèmes de logiciels, ça va bien au-delà de la recherche scientifique, ça va bien même au-delà de certaines entreprises qui ont compris que finalement on pouvait recycler certaines valeurs, certaines conséquences. On ne peut pas recycler les valeurs. Je crois que c'est une opposition effectivement dans les valeurs sous-jacentes à ces deux communautés.
Et on pourrait bien voir converger l'irréconciliable. Hein. Vous parliez de communisme, on pourrait revendiquer du point de vue libéral le plus pur. Et on pourrait bien voir une troisième voie qui soit une voie médiane, moyenne, différente.
En plein dans une dialectique, si pour parler du grand ancêtre.
Voilà, c'est plusieurs démonstrations d'un autre modèle. C'est libre comme ensemble de fonctionnalités informatiques, mais aussi comme expérience relationnelle, font la démonstration qu'un autre modèle de production de la valeur, et des valeurs qui ne soient pas basées sur le profit, sur le rapport de force, ni encore sur la propriété privée, est possible. Alors il fait école, alors je ne sais pas s'il fait école ou s'il a suivi le mouvement, mais maintenant on parle beaucoup aussi de libre savoir, les problématiques de l'économie informationnelle sont déplacées sur d'autres champs, hein, la musique, les productions numériques, etc. Et puis on va laisser le dernier mot à Bill Gates, qui forme le clin d'œil.
Tout tourne autour de Bill Gates, finalement.
Dans lequel il explique effectivement qu'il faut que les gens s'impliquent sur l'impact social et politique de la technologie numérique, c'est exactement ce que dit Stallman, hein, de la même façon. Sauf que, comme disait Bruno en entame de la présentation, il y a peut-être des arrière-pensées qui, elles, ne sont pas tout à fait les mêmes.
En fait, c'est le nouveau Borgia, faites comme je dis et pas comme je fais.
Mais donc, Bill Gates vous invite donc, à réfléchir à l'impact sociopolitique du numérique. Faisons-le. Merci.
Merci. La présentation est là.